troisième et dernier jour de discussion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Elle devrait s'achever à la mi-journée à Deva. Le début des commémorations du 8 mai 45. Une première cérémonie était organisée ce matin à Païta. L'ordre sera maintenu à tout prix à l'approche du 13 mai, un an après les émeutes. Le général Matteos était ce matin notre invité. En métropole, une visite qui fait beaucoup réagir. Le nouveau leader syrien Ahmad al-Shara, au long passé djihadiste, sera reçu la nuit prochaine pour nous à l'Elysée. Emmanuel Macron, qui devrait s'adresser aux Français mardi prochain dans une émission spéciale sur TF1. Le chef de l'État devrait notamment préciser ses positions sur les référendums. Et puis en sport, l'Inter de Milan en finale de la Ligue des champions de football. Les interistes ont sorti le Barça au terme d'un match haletant et au bout des prolongations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc le troisième et dernier jour au Sheraton Deva pour les délégations politiques calédoniennes. Elles sont réunies à huis clos depuis lundi après-midi avec le ministre des Outre-mer Manuel Valls et le conseiller du Premier ministre Éric Thiers. Et ces discussions doivent se terminer cet après-midi, Elisabeth Noir.
Oui, cette séquence sous forme de conclave doit en principe se terminer cet après-midi sans que l'on sache pour l'instant si elle a permis d'avancer dans les discussions pour la recherche d'un accord sur l'avenir institutionnel. Lors de ces deux jours et demi au Sheraton, on pense que le ministre des Outre-mer a transmis à ses interlocuteurs son projet d'accord politique, un projet qui serait celui d'une forme de souveraineté en union avec la France, une sorte d'indépendance d'association. Alors à moins que le ministre ait beaucoup évolué dans ses propositions, on sait que ce projet est inacceptable pour les partisans de la France. On devrait donc savoir dans l'après-midi si ces négociations, qui ont été entourées de la plus grande discrétion, ont été constructives et si elles ont ou non permis de dégager des convergences. Mais d'après nos informations, et même si rien ne filtre de Deva, les quelques échos que nous avons ne sont pas très positifs et ne vont pas dans le sens de la conclusion d'un accord. On en saura donc plus dans l'après-midi. Il semblerait que les délégations et le ministre des Outre-mer soient de retour à Nouméa dans les prochaines heures. Le ministre des Outre-mer pourrait peut-être prendre la parole, ainsi que les représentants des délégations, cet après-midi à Nouméa. Et on rappelle que c'est en principe demain, le 8 mai, que le ministre des Outre-mer et le conseiller du Premier ministre doivent quitter la Calédonie après ce déplacement qui aura duré une dizaine de jours. On sait aussi que Manuel Valls avait déclaré qu'il resterait le temps nécessaire, mais il faudrait qu'il y ait eu des avancées sensibles pour qu'il décide de prolonger son séjour. Encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Il faut attendre cet après-midi pour savoir quelles déclarations seront faites au retour de ces deux jours et demi de conclave au Sheraton Deva.
Un an après le déclenchement des violences insurrectionnelles, l'ordre public est rétabli partout sur le territoire, mais cela a été long, difficile et douloureux. C'est ce que déclare le général Matteos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Et il affirme que dans les jours qui viennent, l'ordre sera maintenu.
L'ordre sera maintenu à tout prix, déclare le général Matteos, qui était notre invité du matin à quelques jours du premier anniversaire du déclenchement de l'insurrection, le 13 mai 2024. Il affirme que les forces de gendarmerie sont en nombre suffisant et qu'elles peuvent compter sur un parc blindé qui sera déployé dès cette semaine.
Aujourd'hui, nous sommes exactement 2100 gendarmes. Une partie des gendarmes mobiles est engagée en zone police et puis l'autre partie est engagée en zone gendarmerie. Nous n'avons pas baissé le format des gendarmes mobiles depuis le mois d'octobre. Effectivement, il y a eu un pic au plus fort de la crise et ça répondait à la nécessité d'être extrêmement nombreux pour rétablir l'ordre sur tout le territoire. Ensuite, ce volume considérable, c'était 41 forces mobiles engagées, ne se justifiait plus. Donc, nous avons retrouvé un format à 20 escadrons qui sont restés et qui vont rester autant que nécessaire.
Et vous disposez également du matériel nécessaire. On sait que l'acheminement du matériel, ça demande du temps parfois. Les Centaures, par exemple, sont restés sur place.
Oui, bien sûr, nous avons cette capacité blindée qui est importante, qui a été déterminante dans le rétablissement de l'ordre. Cette capacité blindée, elle a été maintenue, elle a même été enrichie par l'arrivée de nouveaux blindés. Et donc, nous pouvons monter sur un parc blindé aujourd'hui qui est complètement opérationnel et qui, d'ailleurs, sera massivement déployé dès cette semaine.
Pour prévenir toute réédition des événements du 13 mai et tout débordement dans les prochains jours, un déploiement massif de gendarmes mobiles a été mis en place, précise le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, et des consignes de plus grande fermeté ont été données.
J'ai reçu des directives très très claires de monsieur le commissaire de la République et du procureur de la République pour que l'ordre soit maintenu à tout prix Et donc, j'ai fait valider mon dispositif par le commissaire de la République, qui consiste en un déploiement massif, là où l'année dernière, nous avons eu des difficultés. Déploiement massif de gendarmes mobiles qui sont présents le jour, qui sont présents la nuit, qui sont présents dans les quartiers difficiles, qui sont présents sur les axes les plus importants. Et puis, les consignes que j'ai reçues et que je vais appliquer sont vraiment la plus grande fermeté. La plus grande fermeté, c'est-à-dire que s'il y a des débuts d'émeutes ou des débuts d'exactions, nous interviendrons massivement pour interpeller, présenter ensuite les auteurs de ces exactions devant le procureur public. Donc nous sommes nombreux, nous sommes présents là où il faut, nous sommes présents le jour, la nuit, et nous serons extrêmement fermes dans le maintien de l'ordre public.
Interrogé sur le climat général à quelques jours de ce premier anniversaire, le général Matteo s'affirme qu'il n'y a pas de préparation de nouvelles émeutes, même s'il reconnaît une petite agitation avec des actes de délinquance.
Nous ne sommes pas face à des préparations, une répétition de faits qui pourraient ressembler à ceux de l'année dernière. Très clairement, nous avons une délinquance qui est assez importante. Une délinquance qui est le fait de jeunes, ces jeunes que nous connaissons bien, parce qu'avant le 13 mai, l'année dernière, ils étaient déjà hors la loi, hors les circuits sociaux. Ce sont des jeunes qui échappent à tout contrôle social, qui échappent à toute régulation, qui ne vont pas à l'école, qui fument du cannabis, qui boivent beaucoup, qui nous parlent d'une chimère politique, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire derrière. En fait, ce sont des délinquants qui ont profité de l'opportunité, qui ont peut-être à un moment été manipulés pour casser, brûler et attaquer les gens. Ces gens-là, nous les connaissons, ils sont nombreux, ils sont principalement concentrés dans le Grand Nouméa. Et je crois que pour certains d'entre eux, depuis le 13 mai, il y a un rapport encore plus décomplexé à la violence notamment à l'égard des gendarmes. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, il y a, je vais dire le mot d'agitation, parce que c'est le vrai mot, il y a une petite agitation, à laquelle nous répondons extrêmement fermement, par l'intervention immédiate et massive de gendarmes mobiles, qui nous ont permis systématiquement de reprendre très rapidement le contrôle de la situation. Donc il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de répétition, il y a effectivement des bandes de jeunes alcoolisés qui veulent s'en prendre aux gendarmes. C'est avant tout, vous voyez, le niveau un peu de conscience politique, entre guillemets, puisque leur but dans la vie, c'est d'aller caillasser des gendarmes.
La population calédonienne est épuisée et exaspérée et elle n'acceptera pas d'être de nouveau bloquée et privée, prévient le général. Il précise également que les brigades de gendarmerie qui avaient été la cible sont capables de se défendre et que ce serait un très mauvais signal de se rassembler devant les brigades. Interrogé sur la situation à Saint-Louis, il estime qu'elle est plutôt encourageante alors que cela avait été une zone de guerre.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment la volonté de tous de maintenir la circulation ouverte, mais au-delà de la circulation, de maintenir la paix à la tribu. Et quand je dis tous, c'est aussi les autorités de la tribu qui travaillent avec nous. Je sais qu'il y a des actions qui ont été faites pour que les jeunes qui s'étaient perdus dans cette espèce de violence aveugle et barbare puissent aujourd'hui retrouver le chemin de la raison. Donc je sais que, outre notre dispositif qui est conséquent, je rappelle qu'on a plus de 200 gendarmes engagés sur 24 heures à la tribu de Saint-Louis pour protéger les usagers de la route. Je ne crois pas qu'il y ait une route en France qui soit aussi bien protégée, avec un dispositif aussi dense. Donc, outre cet effort considérable de la gendarmerie pour assurer la sécurité des usagers de la route, nous travaillons aussi avec les responsables coutumiers qui font des actions au sein de la tribu pour maintenir la paix.
Et le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie a aussi fait le point sur le volet judiciaire et sur les poursuites à l'encontre des donneurs d'ordre.
Ce qui est notable, c'est que nous avons pu identifier et présenter à la justice les donneurs d'ordre. Ça, c'est important. Certains sont prévenus, mais sont en détention parce qu'ils devront rendre des comptes à la justice. Et c'était pour nous important aussi de cibler nos efforts, pas seulement sur les pilleurs, les casseurs, mais sur ceux qui, à un moment, ont endossé les responsabilités de mettre des jeunes sur la route. Donc, nous avons une action judiciaire qui a été faite, qui se maintient. J'ai des renforts importants d'enquêteurs spécialisés et nous allons continuer cette action judiciaire qui est essentielle puisque ce sont les lois de la République. Nous devons, chacun doit être capable de rendre des comptes à la justice dans la mesure où les lois ont été enfreintes.
Il y a des commanditaires qui sont encore recherchés ou qui pourraient éventuellement encore être interpellés.
Oui, nous recherchons activement quelques personnes, alors c'est une poignée, hein, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont eu des responsabilités importantes dans l'organisation des désordres, des troubles, des actions contre les gendarmeries. Ces gens-là, nous les recherchons, nous avons mis les moyens, nous continuerons à mettre les moyens parce qu'ils seront interpellés. Voilà, et ils savent, il faut leur dire, ils seront interpellés, ils seront présentés à la justice, quoi qu'il en soit, et donc je les invite bien sûr à se rendre à la gendarmerie. Mais nous allons continuer.
Nous sommes prêts, déterminés, mais sereins, et nous maintiendrons l'ordre partout, affirme encore le général Matteus, dont l'interview est disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Et notez que comme la semaine dernière, pour le long week-end du 1er mai, le haut-commissaire Jacques Billon a pris un arrêté hier interdisant les rassemblements de personnes, les défilés, les marches et cortèges sur la voie publique sur la commune de Nouméa, du jeudi 8 mai au jeudi 15 mai inclus.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Le haut commissaire a-t-il eu raison, selon vous, de saisir le procureur de la République après les propos menaçants d'un élu sur Facebook? Si vous pensez qu'il a eu raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier est 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que lors du conclave qui va s'ouvrir aujourd'hui au Vatican, les cardinaux vont se mettre d'accord rapidement sur le nom d'un futur pape. Ils sont 32% à penser que ce ne sera pas le cas. En bref, notez que l'ensemble des indicateurs économiques s'effondrent en 2024. C'est la conséquence des émeutes et de la crise dans le secteur du nickel. C'est ce qui ressort de la synthèse annuelle de l'IOM publiée ce matin. Malgré un léger rebond au troisième et quatrième trimestre, l'indicateur du climat des affaires, l'ICA, est au plus bas encore que lors de la crise sanitaire de 2020. L'emploi local s'est contracté d'environ 20%, l'activité du BTP s'est effondrée, la consommation des ménages s'est essoufflée et l'activité bancaire a été profondément affectée. La production totale de crédits hors découvert a chuté de 49% en 2024. Pour 2025, l'ensemble des acteurs interrogés s'accordent sur une absence de perspective. Il est 11h41, le temps de marquer une première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le début des commémorations du 8 mai 45.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et calcaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une cérémonie au pied du monument aux morts de Païta, un premier dépôt de gerbes sur le territoire pour commémorer le 8 mai 45, il y a 80 ans. Les Alliés remportaient la victoire face à l'Allemagne nazie, ce qui marquait la fin des combats en Europe, Nicolas Legrand.
Oui, chaque année, Païta se souvient du 8 mai avec un jour d'avance, une question d'organisation pour que les porte-drapeaux et les membres des anciens combattants puissent être présents. Après la lecture du message du général de Gaulle, le dépôt de gerbes s'est tenu en présence des autorités civiles et militaires qui ont ensuite respecté une minute de silence. Écoutez Marilyn D'Arcangelo, le maire de Païta.
Toujours beaucoup d'émotions, hein, parce que moi je tiens à ces traditions et à commémorer tous ces gens qui se sont battus pour une France libre et nous permettre d'être ce qu'on est aujourd'hui. C'est un message d'espoir. D'une longue vie dans ce beau pays français du Pacifique et tant mieux si la relève est là. Tout à fait, on a deux classes de défense sur la commune qui sont très engagées, très volontaires et c'est bien. Ils sont en marche pour la démocratie comme nous. Je félicite les deux collèges qui s'investissent dans ce type de projet.
La commissaire déléguée en province sud, Catherine Merckx, a aussi salué la présence des jeunes à cette cérémonie.
C'est très important, on essaye d'être présent le plus possible dans les communes. C'est un moment de mémoire, un moment de rassemblement. J'ai beaucoup apprécié que cette cérémonie à Païta, il y ait beaucoup de jeunes qui soient présents. Et c'est vraiment un passage de mémoire entre justement nos anciens combattants, les jeunes, les personnalités qui sont présentes. Le message principal dans ces cas-là, c'est se souvenir de ce qui s'est passé pour ne peut-être pas reproduire les mêmes erreurs.
Et avant cette cérémonie, le nouveau drapeau des anciens combattants de la commune de Païta a été remis à ses membres par le maire. Il avait brûlé lors de l'incendie du bâtiment de l'Amicale durant les émeutes de mai 2024.
La capitulation de l'Allemagne nazie sera également commémorée cet après-midi à 16h à Dumbéa, au monument aux morts à la mairie de Coutio. Et ces commémorations vont évidemment se poursuivre demain, Lionel Sabot.
À Nouméa, un dépôt de gerbes aura lieu à 8h30 à la Croix-de-Lorraine, au Mont Coffin. Au Mont d'Or, c'est à 7h30, place des Accords, qu'aura lieu une cérémonie de dépôt de gerbes. Notez également qu'une cérémonie de remise de fourragères et de présentation au drapeau des volontaires découvertes de l'armée de terre se déroulera à Ploum à 10h50 sur la place d'armes du quartier à Broche du RIMAPNC, cérémonie qui sera présidée par le colonel Loïc Belbéoc, chef de corps du RIMAPNC. En brousse, un dépôt de gerbes aura lieu à 11h à Boulou-Paris au monument aux morts, tout près de la mairie. À Moindou, la cérémonie aura lieu à 8h. Dans le nord, les cérémonies de dépôt de gerbes auront lieu à Conné et à Koumac en présence des jeunes du RSMA et du commissaire délégué à la province Provence Nord. La cérémonie de Conné aura lieu à 8h, à Koumakel aura lieu à 10h. Enfin aussi, une cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu demain à 8h à Lifou, devant la mairie Edoui.
Revenons à Païta où 306 jeunes ont atteint la majorité cette année ou l'an dernier. Ils pourront donc pour la première fois exercer leur droit de vote en 2026, notamment lors des élections municipales. Hier soir, une cérémonie de citoyenneté a eu lieu pour remettre à ces jeunes leur toute première carte électorale. Ils étaient une trentaine, certains avec leur famille, réunis au doc socioculturel pour cette cérémonie. Autour du maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo.
Leur remettre leur carte d'électeur, c'est fort, c'est symbolique et c'est porteur d'espoir parce que je trouve que remettre une carte d'électeur à un jeune majeur, c'est lui permettre de rentrer dans la vie citoyenne en fait. Mm-hmm. C'est aussi leur faire comprendre qu'on a des droits et qu'on a aussi des devoirs, mais surtout aussi qu'il faut faire avancer la démocratie.
Une cérémonie de la citoyenneté à laquelle a également assisté la commissaire déléguée en province sud, Catherine Merckx. Et dans le contexte de crise politique que traverse la Nouvelle-Calédonie, les jeunes nouveaux électeurs sont bien conscients de la nécessité de faire bon usage de cet outil démocratique.
De nos jours, c'est important de voter, surtout en ce moment avec l'avenir incertain en Calédonie. Mmh. Du coup, voilà, c'est une fierté de recevoir la carte. Ben là, on rentre dans un nouveau monde, quoi. Mmh. Maintenant, on a des responsabilités. On est citoyens, voilà.
C'est important de pouvoir voter, quelles que soient nos opinions politiques, et pour s'exprimer pour la vie de la cité. Pas après se plaindre alors qu'on n'est pas parti voter. Avec l'actualité en ce moment, je pense que tous les jeunes s'intéressent un peu plus à la politique, même moi, et on se doit de la suivre.
Des propos recueillis hier soir par Lionel Sabot. Le CESE était réuni en séance plénière ce matin. À l'ordre du jour, l'examen et l'approbation du projet d'avis de la Commission de la Culture, de la Jeunesse et des Sports concernant le projet de délibération relatif aux manifestations sportives. Projet qui prévoit de clarifier le périmètre d'application de la réglementation sur les manifestations sportives, de simplifier les procédures administratives, mais aussi d'intégrer pour la première fois le rodéo dans le champ des manifestations sportives. Le texte a reçu un vote favorable à l'unanimité. Une séance plénière du CESE qui s'est tenue dans la salle du conseil municipal de la mairie de Nouméa. Et puis cette opération de transfert embryonnaire et d'insémination artificielle ovine à la station zootechnique de Port-Laguerre. Une opération inédite encadrée par un embryologiste venu spécialement d'Angleterre. Une mission menée en plusieurs phases pour profiter des compétences de cet embryologiste britannique, nous a expliqué Charline Galliana. Elle est responsable de la station zootechnique de Port-Laguerre.
La journée d'hier a été dédiée à la formation des vétérinaires. Donc on a formé 7 vétérinaires sur tout ce qui est reproduction chez les ovins, insémination artificielle, prélèvement et analyse de sang, enfin, des choses assez techniques. Les vétérinaires étaient vraiment ravis, il y a eu beaucoup d'échanges. Tout au long de la semaine, nous, on collecte tous nos béliers pour garder de la semence de béliers pour pouvoir un jour les réimplanter dans nos brebis. Donc ça, c'est du côté un petit peu, on va dire, patrimonial de l'émission, c'est qu'on essaye de travailler sur la technique, de conserver nos semences. Et puis, on a ouvert aussi aux éleveurs privés qui viennent avec leurs femelles et qui vont implanter la semence d'amarin.
Les opérations de transfert embryonnaire et d'insémination artificielle sont conduites avec la collaboration de l'UPRA Calédonie Sélection et de l'UPRA Ovine Caprine, avec un objectif clair, renouveler la génétique du cheptel calédonien, nous a dit Jonathan Bouffard, le responsable du pôle élevage.
Le souci de la Calédonie, comme toujours, c'est qu'on est une île, et donc en termes d'amélioration génétique, on a vite fait le tour de l'île. C'est pour cela que tous les 2 ou 3 ans, nous faisons intervenir un embryologiste qui vient ici avec des semences australiennes, anglaises, américaines. On travaille avec des semences de l'extérieur pour pouvoir justement profiter de la génétique des autres pays.
Jonathan Bouffard, responsable du pôle élevage de la station zootechnique de Port-Laguerre. Notez que pour les ovins, ces missions sont effectuées tous les 2 ans environ. Il est 11h49, une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Et la chapelle Sixtine au cœur de l'actualité dans les prochains jours. La nuit prochaine pour nous, tous les cardinaux vont entrer en conclave à Rome. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans, ils sont 133, pourront participer au vote. 4 tours de scrutin sont prévus chaque jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Le futur pape devra recueillir les 2/3 des suffrages pour être élu. Et dans ce cas, une fumée blanche sortira de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Si le vote n'a pas été concluant, la fumée sera noire. L'actualité en métropole, marquée par les sujets internationaux, est d'abord la visite demain à Paris du nouvel homme fort du pouvoir syrien. Emmanuel Macron reçoit en effet à l'Élysée Ahmed al-Shara et cette visite suscite beaucoup de contestations. Il faut dire que le CV d'Ahmed al-Shara révèle une longue carrière de djihadiste, rappelle Fabrice Balanche. Il est maître de conférences en géographie à l'Université Lyon 2, carrière qui a débuté en 2002 lorsqu'al-Shara a rejoint les rangs d'Al-Qaïda en Irak pour combattre les Américains.
Il va être emprisonné dans la prison d'Abu Ghraib où il va faire la connaissance des cadres d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Irak. Il va être libéré pour bonne conduite. Il va être nommé chef des opérations militaires dans la région de Mossoul. Son travail consistait notamment à convaincre les kamikazes d'aller se faire exploser à proximité des forces américaines. En 2011, il arrive en Syrie, il crée le Front al-Nusra, qui va être mis sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis en décembre 2012. Il est membre d'Al-Qaïda. En 2016, il rompt avec Al-Qaïda officiellement lorsqu'il change de nom pour s'appeler Hayat al-Hasham, le HTC actuel. Mais en fait, s'il a rompu, c'est tactiquement, c'est pas idéologiquement, parce que comme le montrent les renseignements américains dans un rapport récent, on voit bien qu'il n'a pas fait son mea culpa par rapport à son passé djihadiste. Et donc en 2024, eh bien, il profite des frappes israéliennes sur la Syrie qui obligent les miliciens chiites à quitter le pays, ce qui faisait que Bachar al-Assad était nu. À s'emparer évidemment du pouvoir en une douzaine de jours.
Et depuis qu'il a pris le pouvoir en Syrie, après avoir chassé Bachar el-Assad, al-Shara affirme qu'il a changé. Pas si sûr que ça, estime Fabrice Balanche.
C'est beaucoup de façade. C'est quelqu'un par contre qui est très pragmatique, très intelligent. Il sait parfaitement comment se conduire vis-à-vis des Occidentaux pour obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une levée des sanctions, une aide économique pour lui permettre de renforcer son pouvoir. Donc pour l'instant, il donne des gages de bonne conduite, il se montre plutôt tolérant à l'égard des minorités, même s'il y a eu le massacre de milliers d'Alaouites début mars. Mais ça pourrait être pire, hein. D'après certains diplomates européens, ils pourraient tous être éradiqués. Donc ce qui explique, si vous voulez, la mansuétude de l'Europe, qui le 17 mars dernier l'avait invité à Bruxelles pour la conférence des donateurs sur la Syrie. La générosité de l'Europe qui lève les sanctions contre la Syrie et contre le groupe terroriste qu'il dirigeait et les invitations à venir faire une tournée en Europe aujourd'hui.
Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 2, spécialiste de la Syrie. Une visite qui se fera sans les codes habituels puisque l'Élysée ne déroulera pas le tapis rouge et qu'il n'y aura pas de revue de troupes dans la cour de l'Élysée, comme c'est le cas dans ce type de visite. Autre invité à l'Élysée la nuit prochaine pour nous, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. Comme le veut la tradition depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se rendra donc à Paris dès demain au terme d'une élection qui a souligné sa faible assise politique. Pour la première fois en effet dans l'histoire du Bundestag, il a fallu en effet 2 tours de scrutin pour valider l'accession de Friedrich Merz à la chancellerie. Et pendant ce temps, une délégation d'élus français de gauche, d'extrême gauche et quelques centristes vont se rendre à Alger. En pleine période de tension avec l'Algérie, ils vont participer à la commémoration du massacre de Sétif le 8 mai 45. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Si officiellement ils répondent à l'invitation d'Alger pour la journée de la mémoire instaurée par Abdelmadjid Tebboune lui-même, c'est surtout l'occasion pour ces élus de tendre la main à l'Algérie. Une position assumée par Laurent Lardit, président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée et député PS.
Il y a notamment de la part du ministre de l'Intérieur une tentative d'instrumentalisation de la relation entre la France et l'Algérie. Impossible de ne pas réagir. C'est la responsabilité des parlementaires de poursuivre une relation et une amitié avec l'Algérie.
Ce discours contraste pourtant avec celui du Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères réaffirmait ce matin que la relation entre les deux pays est toujours au point mort et pointe du doigt la responsabilité algérienne. Il faut dire que rien ne semble pencher vers la restauration d'une relation bilatérale. Non seulement l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romatet, n'est pas rentré à Alger depuis son rappel il y a quelques semaines, semaine. Mais c'est surtout le cas de Boualem Sansal qui cristallise les tensions. L'écrivain franco-algérien, âgé et gravement malade, est toujours détenu dans les prisons algériennes, et ce depuis plus de 7 mois.
Et après cette séquence internationale chargée, le chef de l'État devrait s'adresser aux Français mardi prochain dans une émission spéciale sur TF1. Emmanuel Macron pourrait à cette occasion préciser sa position sur les référendums. On sait que le Premier ministre souhaite consulter les Français sur le budget 2026. Arthur Delaborde.
Le président pourrait donner corps à la promesse qu'il avait formulée lors de ses vœux du 31 décembre, à savoir consulter les Français sur des sujets majeurs via un référendum. A priori, il ne s'agira pas d'un référendum unique, mais au moins 3 questions devraient être posées, non pas sur les finances publiques, comme le propose le Premier ministre François Bayrou. Le président envisagerait plutôt d'interroger les Français sur des possibles réformes institutionnelles, comme la simplification de l'organisation territoriale et la répartition des compétences entre les régions, les départements, les intercommunalités et les communes. Un sujet sensible déjà soumis à référendum par le général de Gaulle en 1969, qui à l'époque avait échoué à faire passer une réforme sur la régionalisation. Pour tirer cette leçon de l'histoire, Emmanuel Macron souhaite donc un format plus diversifié permettant d'éviter un rejet massif en donnant aux Français plusieurs options, plutôt que de répondre par oui ou par non à une seule question globale.
Toujours en métropole, mais en bref, un drame évité de justesse à Ormesson-sur-Marne, près de Paris. Un policier a été volontairement poussé d'un toit par un cambrioleur surpris par les forces de l'ordre qui tentaient de prendre la fuite. Le policier est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. 3 cambrioleurs, tous d'origine roumaine, ont été interpellés. Et puis, de nouveaux ennuis judiciaires pour Stéphane Plaza. L'animateur et agent immobilier, déjà condamné à 1 an de prison avec sursis pour violence conjugale, a été placé de nouveau en garde à vue. Il est entendu cette fois pour trafic de stupéfiants. Les enquêteurs ont retrouvé de petites quantités de cocaïne à son domicile. Il est 11h et bientôt 57 minutes, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive dominée par le football et les demi-finales retour de Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Brunchez dans les jardins du Château Royal. L'Escale vous propose sa carte brunch tous les week-ends à partir de 10h30 et jusqu'à 14h30. Un large choix de saveurs sucrées et salées pour profiter d'un moment gourmand face au lagon. Rendez-vous sur notre page Facebook afin de découvrir toutes nos cartes et suggestions. Informations et réservations au 23 01 30. L'Escale Château Royal, 140 Promenade Roger Larocque.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et c'est évidemment du football avec la première demi-finale retour de Ligue des Champions ce matin. Dans un scénario plutôt fou, l'Inter de Milan a fini par dominer le FC Barcelone, Léo Fichou.
210 minutes épiques, 13 buts inscrits en 2 matchs, 6 à l'aller, 7 au retour. Un duel qui restera, c'est certain, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Après le match nul, 3 buts partout à l'aller, tout était encore possible entre l'Inter et le Barça. Et ce matin, au bout d'un match palpitant, ce sont effectivement les Italiens qui se sont qualifiés pour la finale. Une victoire 4 buts à 3 après prolongation, puisqu'à la fin du temps réglementaire, le score était comme à l'aller, 2-3 buts partout. Lautaro Martinez, de retour de blessure, a ouvert le score dès la 20e minute pour l'Inter avant que Çalhanoğlu ne creuse l'écart sur pénalty juste avant la pause. En deuxième mi-temps, le Barça déroule. Eric Garcia à la 54e relance son équipe, puis Dani Olmo à la 60e égalise avant que Rafinha ne permette aux siens de prendre les devants à la 87e minute. Mais dans le temps additionnel, Francesco Acerbi égalise pour les Milanais. En prolongation, c'est Davide Fratesi, entré quelques minutes plus tôt dans la rencontre, qui donne finalement la victoire à l'Inter, 4 buts à 3. Score final.
Et en finale de cette Ligue des Champions, l'Inter de Milan affrontera soit le PSG, soit Arsenal. Les deux équipes disputent demain la deuxième demi-finale retour.
Au match aller en Angleterre, les Parisiens avaient battu les Gunners 1-0 grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Et bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, l'attaquant tricolore sera de retour de blessure demain après avoir été au repos plusieurs jours. Il avait notamment raté le déplacement à Strasbourg en Ligue 1 ce week-end. Écoutez l'entraîneur parisien Luis Enrique en conférence de presse.
Il s'entraîne normalement avec nous depuis 2 jours. Vous avez pu le voir aujourd'hui, c'était un entraînement normal pour lui. Donc demain, il sera à ma disposition.
Mais le retour d'Ousmane Dembélé est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. L'attaquant a inscrit 28 buts depuis le mois de décembre. Personne n'a fait mieux que lui en Europe. Paris Saint-Germain-Arsenal, ce sera donc à suivre demain matin dès 6h, heure de Nouméa.
Du tennis en République tchèque et Maxime Chazal enchaîne au Challenger de Prague. Passé par les qualifications, le Calédonien s'est imposé la nuit dernière au premier tour du tableau principal. 358e joueur de l'ATP, il a battu le 220e mondial, le Kazakh Zoukaïev. Ce soir, au deuxième tour, Maxime Chazal affrontera Petr Brunklik, 566e joueur à l'ATP, qui a battu la tête de série numéro 1 du tournoi au premier tour. Et puis on termine avec un mot d'athlétisme sur le territoire, avec la troisième et dernière manche ce soir des différentes coupes organisées par le comité territorial de l'athlétisme.
Trois challenges sont proposés depuis le 23 avril à l'ensemble des athlètes du territoire. La coupe sprint avec du 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. La coupe E avec notamment du 110 et du 400 mètres. Et puis la coupe demi-fond avec du 800 mètres, du 1000 et du 1500 mètres. Après deux manches à Boulari et à Lifou, c'est Vadim Strougar qui est en tête de la coupe sprint, mais aussi de la coupe E. Emmanuel Favard, de son côté, domine la coupe demi-fond. Ce soir, donc, place à la troisième et dernière manche. C'est au stade Numa Dele que le rendez-vous est donné à partir de 16h. La remise des prix se fera dans la foulée.
Et les midis, c'est la fin de ce journal. Infomac.